bonjour Yves, micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition, à part son ton un peu funèbre, je le reconnais, pour vous rappeler ou vous apprendre que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent maintenant un peu partout dans le tram, dans le métro, etc. etc. C'est assez fascinant quand on a connu à mes débuts, que la salle de cinéma. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer, non pas la carrière, non pas la vie, mais juste les films d'un des réalisateurs français les plus originaux de ces 30 dernières années, toujours en activité, heureusement. En l'espèce, le dénommé Arnaud Desplechin, qui a fait les grandes écoles et puis qui ensuite s'est imposé par une série de films tout à fait différents, même si à chaque fois on reconnaît qu'il s'agit d'un film d'Arnaud Desplechin. On va commencer avec un film tourné en 1291, qui d'ailleurs est le premier vrai film de Arnaud Desplechin. Il avait déjà fait plusieurs films d'école, puisque Arnaud Desplechin sort de la fameuse FEMIS, l'école de cinéma française. Mais en 1991, La vie des morts fut son premier moyen-métrage, qui obtint d'ailleurs le prix Jean Vigo du moyen-métrage, le plus prestigieux prix accordé à des films en France. Une histoire qui se passe dans le Nord, autour d'un jeune homme, Patrick, qui s'est suicidé et dont on apprendra... qui a tenté de se suicider, dont on apprendra à la fin du moyen-métrage, pardon pour le spoiler, qu'il décède et donc des personnages se réunissent pour raconter ce qu'ils savent du dénommé Patrick. Le tout est très subtil, très, comment dire, jamais appuyé, avec, je dirais, une capacité dont Desplechin fera preuve dans le reste de sa filmographie, de ne pas dire les choses et de laisser aux spectateurs le soin de les deviner ou de les comprendre, bref, de faire appel à son intelligence. Ils ne sont plus si nombreux, ceux qui font appel à l'intelligence du spectateur. Dans le film, il y a Marianne Denicourt, Emmanuel Salinger, Emmanuel Le Devos, qu'on retrouvera dans d'autres films de Desplechin. Quant à la musique, elle est co-signée, je ne sais pas trop quelle est la part respective de Marjolaine Hott, de Fritz et de Marc-Oliver Sommer dans la partition. Mais ça ne va pas nous empêcher d'en écouter un petit extrait. La vie des morts, un film de Desplechin tourné en 1991 dans 24 notes secondes. Thank you. Ah ben non, je ne vous ai pas laissé profiter du dernier coup de tambourin, je dirais, excusez-moi. Un extrait de la bande originale de La vie des morts, un film d'Arnaud Desplechin tourné en 1991. Un moyen métrage pour son film suivant, qui sortira dès l'année suivante, donc en 1992 sur les écrans. Eh bien, Arnaud Desplechin verra plus grand, beaucoup plus grand, puisque La Sentinelle, c'est le titre de ce film, fait plus de 2 heures, et qu'il s'agit d'un film tout à fait ambitieux, qui se situe explicitement juste après la chute du mur de Berlin. Alors, ceux qui aiment ce genre de feuilleton pourront y voir un prémisse du fameux Bureau des légendes, puisque l'histoire se passe dans les milieux diplomatico-espionatico, je ne sais pas trop politico-français. On y parle de Français détenus en URSS, en ex-URSS en 1992. À l'époque, c'était encore la CEI. Bah, d'ailleurs, c'est toujours encore la CEI. Bref, et donc, Arnaud Desplechin réussit à mêler d'une manière tout à fait habile différents niveaux de lecture de son film et, je dirais, différents univers cinématographiques, le thriller, le film d'espionnage, le film noir, l'étude sociale et même aussi l'étude psychologique, au rythme d'un film très long, mais cette lenteur fait justement partie du propos. D'ailleurs, elle fera partie du propos de nombre d'autres films d'Arnaud Desplechin. Peut-être pourra-t-on y voir aussi, pardonnez-moi, la patte de Pascal Ferrand. Pascal Ferrand qui adaptera ô combien brillamment L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence quelques années après. Elle aussi dans la longueur, mais la longueur n'est pas le mot, juste une temporalité adaptée en fait à ce qu'il s'agit de traduire. Ce sera vrai ô combien avec D.H. Lawrence, mais ça l'était aussi dans La Sentinelle. Arnaud Desplechin avait su trouver un rythme qui n'était pas du tout celui d'un thriller survitaminé à l'américaine, mais au contraire, une histoire beaucoup plus subtile, attachée aux personnages et à leur devenir, le tout brillamment inscrit dans la recomposition politique de la fin du XXe siècle, qui suivit évidemment la chute du mur de Berlin. Dans les rôles principaux, eh bien, on retrouvait des acteurs déjà évoqués pour la plupart, notamment Emmanuel Salinger qui jouait le rôle principal. Il y avait aussi, dans des rôles un peu moins importants, Emmanuel Devos, déjà cité, Marianne Denicourt, Bruno Todeschini. Le tout était vraiment, vraiment très subtil, très plaisant, si le mot peut passer. Quant à la musique, eh bien, elle était signée du même Mark Oliver Sommer, déjà cité. Et on va en écouter un extrait donc de La Sentinelle, 1992, en 24 notes secondes.
Thank you.
Eh bien non, ce n'est pas du Jean-Sébastien Bach, même si je vous le concède, ça y ressemble furieusement. C'est la musique écrite par Marc-Oliver Sommer pour la bande originale de La Sentinelle, un film d'Arnaud Desplechin, notre héros de ce jour, tourné, ou plutôt sorti, en 1992. Et eh bien, il faudra ensuite attendre 4 ans pour qu'en 1996 sorte le film suivant d'Arnaud Desplechin, avec un titre assez complexe, il faut le reconnaître. Ça s'appelle « Comment je me suis disputé 3 petits points ». Entre parenthèses, ma vie sexuelle, ma foi, j'imagine, d'ailleurs je l'ai fait moi-même. Bonjour, je voudrais une place pour comment je suis disputé, 3 petits points, ma vie sexuelle. Bon, bah, pas tout à fait comme ça. La petite histoire rapporte qu'en fait le titre originel devait être « Comment je me suis disputé avec Éric Barbier », qui est lui-même un réalisateur qui avait fait La Fémis ou l'IDEC. Ma petite fiche dit l'IDEC, mais je pense que c'était déjà La Fémis à l'époque où Desplechin et Barbier y étaient. Et une décision de justice, un peu justifiée, il faut le reconnaître, lui interdit d'utiliser le nom d'Éric Barbier, qu'il remplaça donc par 3 petits points. Toute la délicatesse d'un réalisateur, alors qui, pour un film qu'a priori on aurait dû détester, puisqu'en fait il raconte l'histoire d'un normalien et trentenaire parisien, maître assistant en philosophie à l'université de Nanterre. Donc déjà, ça fait germano-pratin de base. Donc ça fait partie de tous ces films des années 80 jusqu'à aujourd'hui encore qui nous agacent, nous ennuient, nous exaspèrent avec les tourments de privilégiés parisiens. Mais c'était Arnaud Desplechin qui était à la réalisation et Arnaud Desplechin et Emmanuel Bourdieu qui étaient au scénario. Et donc le film, eh bien, il est magnifique. Il faut bien le reconnaître. C'est donc l'histoire d'un normalien qui s'appelle Paul Dédalus. Les plus lettrés d'entre vous auront reconnu une allusion à James Joyce et à l'un des personnages principaux d'un de ses livres principaux, si je puis dire. Et évidemment, le film était nourri de toute cette culture. Ma foi, c'est une culture qu'on peut revendiquer, ce que faisait avec panache Arnaud Desplechin. La distribution, là encore, était d'exception, il faut le reconnaître. Il y avait Mathieu Amalric dans le rôle principal de Paul Dédalus. Mathieu Amalric, qui à l'époque n'était pas du tout la star, en tout cas la grande vedette qu'il est devenu 30 ans plus tard. Il avait joué très brièvement dans La Sentinelle, mais là, il se voyait octroyer le rôle principal. Et à ses côtés, eh bien, il y avait une troupe, on peut le dire, la troupe de Desplechin pour un film choral. Emmanuel Devos, Thibault de Montalembert, que je n'ai pas cité alors qu'il était déjà dans La Sentinelle et dans La Vie des Morts. Emmanuel Salinger, déjà cité. Marianne Denicourt, il y avait aussi Denis Podalydès, Jeanne Balibar. Je ne vais pas tous les citer, mais j'ai quand même cité aussi la petite Marion Cotillard, là encore, qui n'était pas tout à fait connue et que donc Arnaud Desplechin a contribué à faire connaître. Bref, un film de plus de 2 heures, à ma souvenance, là encore, mais dont on n'a pas oublié le brio et dont on n'a pas oublié notamment le discours final prononcé par Emmanuel Devos face à la caméra. Un grand moment de cinéma, d'une beauté, d'un lyrisme absolument pur et qui concluait un film tout à fait réussi. Là, si je ne vous ai pas donné envie de le voir, je ne sais pas quoi faire. On va écouter un extrait de la bande originale. Elle est signée de Krishna Levy. Comment je me suis disputé ma vie sexuelle dans 24 notes secondes.
Thank you.
Eh bien, si tout à l'heure nous étions chez Jean-Sébastien Bach, là nous serions plutôt chez Ravel ou chez Fauré. Un extrait de la bande originale de « Comment je me suis disputé », un film d'Arnaud Desplechin, notre héros de ce jour, une musique de Krishna Levy. Et on va continuer en évoquant un film sorti en 2015, c'est-à-dire bien après « Comment je me suis disputé », 20 ans après « Comment je me suis disputé ». Le film s'appelle « Trois souvenirs de ma jeunesse » et en fait c'est... une sorte d'évocation des jeunes années du fameux Paul Dédalus, interprété donc par Mathieu Amalric dans le film précité. Et c'est à nouveau Mathieu Amalric qui, 20 ans plus tard, interprète le rôle principal, celui d'un anthropologue. Maintenant, il est devenu anthropologue qui se remémore trois souvenirs de sa jeunesse, comme le titre l'indique. Son enfance à Roubaix, la ville de naissance d'Arnaud Desplechin, qui tient un rôle dans beaucoup de ses films, notamment dans le dernier que nous évoquerons. Un deuxième souvenir, un souvenir d'adolescence lors d'un voyage en URSS. Et puis, troisième souvenir forcément pour un jeune homme, une histoire d'amour avec une lycéenne, évidemment. Esther, en l'espèce. Là encore, un film tout en délicatesse, tout en nuance, tout en brio. Arnaud Desplechin sait toujours trouver le bon angle de caméra, le mot juste, l'acteur qu'il faut. Et ma foi, eh bien, il a des interprètes d'exception. Il faut bien reconnaître que Mathieu Amalric, parfois agaçant, parfois exaspérant, eh bien avec... je dirais Arnaud Desplechin, il a trouvé son alter ego, c'est-à-dire que Mathieu Amalric, eh bien, c'est Arnaud Desplechin à l'écran, même si le raccourci pourra paraître rapide. Signalons pour la petite histoire que les films censés se passer en URSS, et en fait dans l'URSS de l'époque, évidemment, eh bien, ont été tournés sur place au Tadjikistan et en Biélorussie, figurez-vous. Quelque part en septembre 2014, dit ma petite fiche qui ne se trompe jamais. Tout ça paraît déjà bien loin, même si ce n'est pas le cas. La musique de ce film, elle est signée de Grégoire Hetzel, auquel nous avons déjà consacré une émission de 24 notes secondes, hein, l'un des grands compositeurs de la musique de film français contemporain. Je vous laisse en profiter. Trois souvenirs de ma jeunesse, mais 24 notes secondes. Voilà, un extrait de la magnifique partition de Grégoire Hetzel pour « Trois souvenirs de ma jeunesse », un film d'Arnaud Desplechin sorti en 2015. Et on va se quitter avec une merveille. Un film qui est une merveille, une musique qui est une merveille. Un film donc, évidemment, d'Arnaud Desplechin. Ça s'appelle « Roubaix, une lumière ». Le film est sorti en 2019. Comme son titre l'indique, il se passe à Roubaix. En fait, il est inspiré d'un documentaire tourné quelques années auparavant par Mosco Bucco. Un documentaire intitulé « Roubaix, commissariat central », dans lequel on voyait deux jeunes filles confessées toxicomanes, deux jeunes filles confessées devant la caméra, c'était absolument stupéfiant, un meurtre, et un vrai meurtre, pardon du terme évidemment, commis en mai 2002 dans une cour qui, destin, signe, il ne faut jamais décevoir les signes, une cour qui s'appelait la cour Desplechin. Évidemment, ça ne pouvait pas en être autrement. De ce fait divers, de ce film, donc, eh bien, Arnaud Desplechin fera une sorte de récit, là encore, choral sur la ville de Roubaix. Lui-même dit qu'il a dirigé le film, c'est tout, qu'il a en fait laissé les paroles, notamment de ces jeunes filles, portées par Léa Seydoux et Sarah Forestier, qui sont absolument stupéfiantes aussi, pour un film doux amer, avec évidemment une des villes les plus pauvres et des plus tragiques, si je puis dire, de France, mais où il y a aussi de l'espoir, de la solidarité, de la tendresse, de la douceur parfois. Bref, quelque chose dont on aimerait que le cinéma français nous en offre plus souvent, plutôt que ces comédies bourgeoises, stupides et formatées. Là, au moins, on a du vrai cinéma, avec un vrai réalisateur et des acteurs et actrices, là encore, à l'aune. Et on ne pourra pas ne pas évoquer Roche Dizem, qui joue le rôle du commissaire du commissariat central de Roubaix. Il obtint pour ce film un César plus que mérité, mais en bref, tous les acteurs, toutes les actrices pourraient l'obtenir. Là encore, j'espère vous avoir donné envie de vous précipiter, je ne sais où, pour voir Roubaix, une lumière. Le film le mérite, et il le mérite aussi par sa musique, signée Grégoire Hetzel, avec laquelle je vous laisse sans plus attendre dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.
Thank you.